France. Les gens du voyage, nomades ou sédentaires, de nationalité française depuis des générations, ont obtenu la carte nationale d'identité française seulement depuis 2016. Avant cette date, leur carnet de circulation devait être visé par l'administration tous les 3 mois. La disparition de ce signe institutionnel de disparité n'efface cependant pas la discrimination dont est toujours victime cette partie de la population française. La semaine prochaine, nous parlerons de fascisme. Très bonne semaine et surtout, tenez bon.
L'émission La société dans tous ses états, à 18h lundi, sera consacrée à la mémoire de Thierry Poré, qui nous a quittés récemment.
Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, unde non aginta quatuor megahertz.
Radio Libertaire, 89.4.
Noli oble whisky cartula mauditoris emere.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunia sustineas.
Pour nous aider financièrement.
Hae cartula centum francis consta.
Cette carte coûte
20 euros.
100 balles.
Quam emere potes in libraria libertari mundi taberna.
Tu peux l'acheter à la librairie du monde libertaire.
In domo quintesima quadragesima quinta via Amelot.
Au 145 rue Amelot.
Quacum cartula minoris solues procribus dam spectaculis.
Avec cette carte, tu paieras moins cher certains spectacles.
Alis queremus attractivis.
Et autres attractions.
Radio Libertaria, sediosissima ex omnibus.
Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
Tous après l'étreinte en moins de deux R2 vient un bâton merdeux quand vous ne nous les caressez pas chérie, vous nous les cassez oubliez les si faire se peut qu'elles se reposent quand vous nous les dorlotez pas vous nous les passez à tabac oubliez les si faire se peut qu'elles se reposent un peu qu'elle se repose dans la...
Bonjour les auditrices et auditeurs. Nous vous prions de nous excuser avec la chaleur. Il y a eu un petit problème technique, n'est-ce pas? Parce que la chaleur, elle fait du désordre. Bon, il faut toujours qu'il y ait un coupable. Hein. Donc, ouais. On va trouver un coupable. Et donc, aujourd'hui, nous sommes bien contentes, Anne et moi, de recevoir... je pensais les petites dames de Maupassant, mais c'est les femmes de Maupassant.
Les petites femmes de Maupassant.
Et en plus, petites. Pourquoi petites? On ne sait pas pourquoi.
Ouais. Oh, je crois que ça donne un petit côté mignon. Hein.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous recevons les petites femmes de Maupassant grâce donc à Gwenaëlle de Gouvello.
Enchantée.
Voilà. Le metteur en scène. Qui a déniché une pièce de Roger de Fossès, on dit de Fossès ou de Fossé. De Fossé, qui était un comédien, et malheureusement il est décédé, mais qui a joué pendant 60 ans, il faut quand même le faire. Mmh. Je ne sais plus quel rôle, hein, mais dans Les Chaises de Ionesco ou La Cantatrice Chauve. Voilà. Pendant 60 ans, il faut quand même le faire.
Hein. Il a fait tous les rôles, j'imagine. Parce que du coup, il a dû passer de l'un après. Puis avec l'âge, on continue. Hein. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est une belle carrière.
Et donc, il devait aimer beaucoup Maupassant parce qu'il a lu toutes les nouvelles de Maupassant et il en a recueilli parmi toutes ces nouvelles. Des histoires où apparaissent les femmes sous le regard de Maupassant. Voilà. Alors là, dans cette pièce, c'est pas vraiment des paysannes, hein. On peut pas dire ça.
Il y a une comédienne,
mais pas forcément paysanne.
Non, on ne sait pas.
Bon, ce sont des on allait dire, des petites bourgeoises. Voilà. Non,
oui. Hein, et surtout qu'il y a une marquise et une baronne, donc.
Ah oui, non, c'est ça.
Parce que
oui,
plus
oui,
c'est la bourgeoise,
c'est la noblesse. Ouais.
Ah, c'est la noblesse en plus.
C'est
ouais.
Petite noblesse, ouais, comme Maupassant.
Voilà. Ouais, comme Maupassant. Ouais. Maupassant. Voilà, voilà. Et alors, elles se retrouvent entre elles. Alors, elles ont. Je trouve ça formidable parce que, quand même, Guy de Maupassant, c'est le 19e siècle. Hein, c'est la moitié du 19e siècle à peu près. Alors, il rentre vraiment dans les têtes des femmes. Au début, ce qu'on a bien compris, c'est que ces femmes, elles se réunissent entre elles. Elles ne veulent pas d'hommes. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que elles ont besoin d'être entre elles. Et qu'est-ce que font les femmes quand elles sont entre elles? Eh bien, elles parlent d'amour.
Elles divinent les hommes.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Pas trop.
Ah non, je ne suis pas d'accord. Elles ne divinent pas les femmes. D'ailleurs, dans les extraits que l'on va passer, on verra que non, elles ne divinent pas les hommes. C'est-à-dire que, en fait, bon, c'est un peu... bon, d'un côté, il y a l'homme qui est fantasmé, hein. C'est l'homme dont on tombe amoureuse.
Ce qui est bien normal.
Voilà. Donc c'est bien normal.
Il n'est pas là, mais il est fantasmé. Voilà.
Je pense qu'il est un peu fantasmé. Mais enfin, bon,
il est moustachu en plus.
Mais moi qui suis une femme, moi j'ai jamais fantasmé les hommes, hein, jamais. Mais non. Ah. Enfin, je sais pas.
On va commencer la pièce, c'est ça.
C'est exactement
vous
ça.
Vous nous retrouvez sur scène, les filles.
Elles sont en train de babiller là.
On revient.
Non, j'ai... bon, mais c'est... mais je connais des femmes. Suspendu au téléphone, est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va venir? Oh là 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 là, qui tombe dans les pommes, rien qu'à penser à leur homme. Ça, c'est incroyable. C'est l'esprit vraiment. S'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Alors les hommes peut-être aussi, mais ils ne le montrent pas.
Mais bien sûr, bien sûr. Ils sont tous comme ça. Est-ce qu'elle va m'appeler? Est-ce qu'elle pense à moi?
Voilà.
Moi, je vais lui envoyer un petit message. Est-ce qu'elle va répondre? Voilà, bien sûr.
Alors, par contre, il y a un portrait, des portraits des maris. Oh, mon Dieu, les maris, ventrus, qui ronflent. enfin, bref, le mari... C'est vraiment l'horreur.
Ah non, malade.
Ça dépend. Non, le mien, il est très bien.
Ah bon ?
Le mien, il est très bien, c'est juste que...
Elle le trompe, mais bon...
Non, je ne le trompe pas.
C'est
je
pas ça.
Je m'éveille,
non,
je m'éveille
trompée,
à quelque chose.
C'est que
je me suis trompée de... Ouais,
elle ne trompe pas son mari, elle s'est trompée de mari.
Donc, on va faire un tour de table, après l'autre comédienne qui n'est pas encore arrivée. Alors, peut-être, est-ce que vous avez envie de présenter chacune votre personnage ?
Avec plaisir.
Avec plaisir. Voilà. Bon, alors, et vous présentez aussi votre nom quand même aussi.
Eurydice. Ah oui, alors, moi mon personnage, c'est le personnage de Coralie, qui est donc la nièce de Céleste, qui est la maîtresse de Céan. Et Coralie est assez jeune, elle est sortie du couvent où elle a rencontré sa copine Zoé, enfin Charlotte Zoé. Enfin, dans une espèce d'école pour jeunes
femmes. Ah
jeune
oui, Charlotte Zoé, hein, elle a dévergondé.
L'actrice.
Non, elle est dans l'instant.
Elle est dans l'instant. Bref, donc Coralie va voir sa tante et retourne dans la maison de sa tante, de maison de famille, pour lui partager un trouble qu'elle a, qui est qu'elle vient d'avoir une aventure avec un homme alors qu'elle est mariée. Et elle ne sait pas quoi en faire. Et c'est une aventure un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, elle a vu une courtisane de l'autre côté de sa fenêtre, dans la rue, qui faisait de l'œil aux hommes et les faisait monter chez elle. Et elle s'est prise au jeu, probablement parce que c'est une actrice née et que du coup, elle est comme une éponge et elle fait la même chose et ça l'a amusée, et dans l'instant aussi. Elle a fait un signe à un homme qui est monté chez elle. Et avec qui elle vient d'avoir un rapport sexuel alors qu'elle est mariée, est tout à fait de bonne famille, et la chose est totalement impensable. Et elle est complètement dans tous ses états, et probablement parce que soit elle n'a pas de mère, soit sa mère n'est pas une figure de référence, elle va voir sa tante. Parce que sa tante est la personne à qui elle peut en parler. Et donc, elle a embarqué dans ses valises sa grande amie d'enfance, Zoé, qui est comédienne, à qui elle n'a pas parlé de cette histoire, mais qui est là parce qu'elle l'aime, parce qu'elle l'a embarquée, parce qu'elle-même, cette Zoé, est un petit peu dans un tournant de sa vie. Et aussi parce que certainement, ça la rassure d'avoir sa copine avec elle.
Ah, voilà. D'accord.
Et moi, je suis Eurydice à l'être, et c'est moi qui joue Coralie. D'accord. Est-ce que vous avez des questions?
Non. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est... et encore, vous le racontez de façon très soft. Parce que c'est pas si soft que ça.
Ah, ben, c'est pas soft. Enfin, elle a couché avec un garçon. Non, mais c'est pas soft.
C'est pas elle qui regarde dans la rue.
Absolument.
Elle voit de l'autre côté une femme qui fait des signes de l'autre côté de l'immeuble, mais c'est une prostituée.
Absolument.
Et donc, comme elle est naïve, Coralie, c'est ça ?
Ouais.
Comme elle est naïve, elle s'est dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas la même chose ?
Elle est naïve et dans l'instant. C'est-à-dire qu'elle elle a décidé de faire ce qu'elle voyait en face d'elle.
Elle est naïve et finalement, elle fait un signe aussi
Un homme qui monte chez elle et qui pense qu'elle-même est une fille de joie.
C'est pas soft quand même.
Mais j'ai jamais dit que c'était soft.
Non, mais je plaisante.
J'ai jamais dit que c'était soft. J'ai dit qu'elle était dans l'instant.
Une petite bourgeoise ou une petite femme noble qui fait des signes comme ça et qui finalement est prise pour une fille de joie. Mais quand même.
Raison pour laquelle elle est complètement dans tous ses états.
C'est scandaleux. Ouais. C'est scandaleux.
Absolument.
Franchement. Hein.
C'est pour ça qu'elle est déroutée aussi. C'est pour ça qu'elle est perturbée de ce qu'elle a fait.
C'est pour ça qu'elle a besoin de voir sa tante.
Bon, tu peux bien compris. Bon.
Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que dans la nouvelle de Maupassant qui a inspiré ce passage, en fait, dans la nouvelle de Maupassant, c'est à Céleste que ça arrive.
D'accord.
Donc, la nouvelle de Maupassant, c'est entre Céleste et Hortense.
Ah, oui, voilà, d'accord.
Là, ça a été adapté par Desfossés, et ce qui nous fait nous dire que peut-être elle va voir sa tante parce que elle se dit que sa tante a dû connaître des gens. En tout cas, c'est une femme très libre, sa tante, et qu'elle a dû. Peut-être elle comprendra, quoi. Elle connaît beaucoup de choses de la vie.
Oui, oui. Mais moi, je trouve que ce sont des situations très. Ça me fait penser à Fedo, moi.
Absolument.
Oui. Hein, un peu quand même. Hein. Sure. Ça me fait penser à Fedo. Et pourquoi pas, parce que Fedo, il était à peine ou plus jeune ou à peine plus âgé que Maupassant. Fedo, c'est un peu la même époque. C'est la même époque.
Fedo ou Oscar Wilde, moi je revoyais l'importance d'être constant hier. Mm-hmm. Et c'est un peu ce genre de personnage, quoi. Cette espèce de naïveté et en même temps d'esprit et de dévergondage un peu. Et de, vous voyez, c'est une drôle d'atmosphère.
Un drôle d'atmosphère, ouais. Ouais.
Fedo et Maupassant ont à peu près la même fin.
Oui, tragique avec la syphilis.
Grâce aux femmes, si j'ose dire.
Mais pourquoi grâce aux femmes? Enfin, non. Bon. les hommes aussi font circuler
la chose.
On va dire.
Bon, alors, ensuite.
Alors, moi, je suis Marie Grac et donc j'interprète Charlotte Duchou, qui a choisi comme nom de comédienne Zoé Tambour. Parce qu'elle trouvait ça plus fun. Après, si vous voulez savoir les vraies raisons, il faut venir nous voir. Et donc, elle est venue avec son amie Coralie, qui lui a proposé de venir à la campagne chez sa tante. Ce qu'elle accepte évidemment avec plaisir, puisqu'elles s'adorent et qu'elles sont très complices. Et elles ont prévu, pendant le séjour, de faire du théâtre, de s'amuser et de profiter pleinement. Après, pendant la pièce, on se rend compte aussi que Zoé a, elle aussi, un parcours et qu'elle est très heureuse de partager avec toutes ces femmes ses expériences, ses doutes, ses fragilités. Parce qu'en vrai, c'est un peu ça, les petites femmes de Maupassant. C'est ce qui nous réunit toutes. Et d'ailleurs, bien souvent, en loge ou au bar, on se retrouve souvent dans des situations où on a l'impression de vivre la pièce. Donc c'est ça qui est très touchant.
Elle est très marrante, le personnage.
Oui, c'est un rôle très chouette.
Jouez, elle est vraiment très marrante, très drôle.
Hein. Elle est très drôle parce qu'elle ne. C'est ce que dit Coralie à un moment, et c'est une phrase que je me. Enfin, quand Coralie l'a dit, enfin, Eurydice l'a dit, je m'en imprègne. Je l'aime parce qu'elle est.
Elle vit l'instant présent avec une rare intensité.
Voilà. Et ça, c'est vraiment la clé pour ce personnage. Parce qu'il ne faut pas réfléchir, il faut être tout le temps dans l'instant. Et quand, oui, elle a peut-être une aventure avec une personne de la maison de Céleste, c'est sans réfléchir. C'est juste, elle aime bien prendre le plaisir partout où il est, de façon spontanée. Et après, bon, ça a des conséquences et. Et voilà, mais c'est simple.
En fait, c'est le bout en train de toutes ces dames. Hein. plus ou moins. Hein.
Oui,
c'est une des plus jeunes. Elle fait celle qui est la plus jeune et puis qui a un parcours assez difficile parce que bon, on va pas raconter toute la pièce.
Non, on va pas tout raconter.
Mais oui. Elle a pas eu un parcours très très facile.
Non, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle profite de la vie. Elle a dû se rendre compte que voilà, il y a eu beaucoup de choses difficiles et que bah on n'a qu'une vie.
D'ailleurs,
et donc on avance.
En filigrane, on comprend qu'elle a été abusée. Et
oui.
Avec le consentement de sa mère, etc., par des hommes très jeunes.
C'est ça.
Hein? En filigrane, c'est pas dit aussi, de façon. Mais on comprend ce problème-là.
Elle en a fait une force. Enfin, je pense qu'elle tente d'en faire
quelle
une
est,
force.
Alors,
intermède. Si vous voulez, je chante une chanson pour.
Oh, ben voilà.
On peut chanter, nous.
J'ai un technicien qui me dit ne tape pas sur la table avec ta main, ça passe sur Internet. Eh ben, c'est pas grave. Il faut un peu de bruitage.
Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des petits papiers qui circulent. Hein. En sous le manteau.
Voilà. Bon, allez, un autre personnage.
Alors, moi je m'appelle Karine Pinotto, j'interprète le rôle de la marquise Hortense de Rennedon, qui est donc une amie de longue date de Céleste de Grangerie, qui nous reçoit donc dans sa maison. Et oui, je pense qu'elles se connaissent depuis vraiment très très longtemps. Et moi je pense que je joue un personnage qui est vraiment le personnage classique de la femme mariée qui s'ennuie avec qui a eu probablement un mariage peut-être, alors ça a été un débat entre nous, peut-être heureux au tout début, peut-être pas. Est-ce que c'était un mariage arrangé comme
il y en a beaucoup à l'époque quand même.
Voilà, c'est ça.
Hein? En fait, Maupassant, il parle de ce qu'il connaît. Hein, parce
exactement.
Que lui, il est de petite noblesse. Hein, il est né au château de Miroménil et son père était un coureur. Qui allait courir à droite à gauche pour hein. Et en fait c'est sa mère qui l'a élevé et c'est avec sa mère qu'il a dû apprendre beaucoup de choses
sur les femmes bien
ouais.
sûr
ouais.
Puis elle a fini par mettre le père à la porte aussi hein, la mère ce qui
n'était
ben,
pas,
voilà. pas banal à cette époque je veux dire. Ouais.
Mais non ça ne devait pas être banal
pas banal du tout.
Donc en fait
ce qui est le rêve de mon personnage justement de mettre son mari à la porte elle a vraiment envie de vivre autre chose de respirer un autre air.
Mais...
et c'est pour ça qu'elle a eu c'est mon personnage qui a eu l'idée de cette réunion entre filles. Au départ elle pense que c'est uniquement avec Céleste pendant quelques deux semaines pour s'éloigner vraiment de cette vie maritale ennuyeuse et c'est beaucoup plus amusant d'être entre copines sauf qu'elle s'attend pas à ce qu'il y ait deux autres jeunes femmes qui débarquent et qui l'étonnent beaucoup ces jeunes femmes en particulier la jeune comédienne justement dont elle a je pense beaucoup à apprendre mais surtout qu'il inspire en fait cette liberté cette envie de vivre autre chose. Et en plus, elle a fait une rencontre dans le train. Mais ça.
Bah justement, alors, j'ai fait des enregistrements sauvages, donc qui ne sont pas d'une très grande qualité. Le début de la pièce, où il y a Alexandra et vous-même, je crois qu'on vous entend, et la fin, où on vous entend bien aussi, pour raconter votre. Que vous avez envie de claquer la porte de votre mari.
Voilà.
Alors, on va, si c'est possible, Laurent, hein, je ne vais pas taper
sur la table.
Si c'est possible, est-ce que tu peux passer le premier extrait, le début, où il y a le début, le tout début. Alors,
en attendant la réflexion, moi, je peux juste rebondir sur ce que disait Karine, c'est que ton personnage il s'intéresse
dans lequel une
oui c'est ça
une femme est assise elle paraît jeune elle est très belle ils roulent le fauteuil le long de la plage et ils vont disparaître derrière les tamaris voilà ils ont disparu en tout cas maman j'ai manqué ce rendez-vous tu connais ma sensibilité et mon romantisme oh, j'admire cet homme et je le plains
de sa femme
oui. Avant qu'elle ne le soit, c'était son modèle. Tu connais le peintre Sommer ?
Oui, mais il est connu, il célèbre.
C'est lui ! Et chaque matin, il vient peindre la mer en poussant devant lui le fauteuil de sa femme infirme. Elle le regarde peindre avec un œil admiratif, amoureuse. Mais ce bonheur apparent cache un drame. Tu les connais ? On salue. Mais nous avons le même notaire, c'est lui qui m'a tout dit. Ils sont très amis.
Il a donc épousé son modèle. Oh, il en avait guère l'intention. Elle posait chez lui, elle était jolie, élégante. Et possédait, paraît-il, une taille divine. Il devient amoureux d'elle comme on devint amoureux de toute femme un peu séduisante, sans plus. Et il s'imagina qu'il l'aimait de toute son âme. Mais l'on sait fort bien que la fatigue a toujours suivi la possession.
Hélas, l'appétit physique ne suffit pas. Il est vite éteint.
Bref, ils vécurent ensemble. Elle était vraiment gentille, infidèle. Mais elle va piller. J'agressais qu'elle finit par agacer. Si bien qu'elle m'a fait une enfer suivre toutes ses toiles en raison de 20 000 francs et me laissa un remarque sur la cheminée avec une lettre d'adieu.
Mais que fit-elle?
Attends. Il se réfugia chez son ami notaire. Un matin de bonheur, on sonne. Il va ouvrir. C'était elle. Une furie. Elle lui jette les billes au visage et lui dit « Je ne veux pas être traitée comme une fille. Tu m'as prise. Garde-moi. » Lui était pâle de colère. Pour éviter toute violence, le notaire commence par la calmer et lui annonce doucement que sa famille veut le marier. Et alors, elle se plante devant lui et lui dit carrément « Si tu te maries, je me tue. »
Et alors,
il hausse ses épaules et lui dit « Tu dois si ça te fait plaisir. » Elle, folle d'amour, perdant la tête, lui lance « Oh, ne me défie pas, sinon je me jette par la fenêtre !»
Et alors,
il éclate de rire, il ouvre la fenêtre et lui dit avec cérémonie « Voici la route, après vous, ma chère. » Et alors, elle sauta dans le vide.
Non.
On rapporta la pauvre petite avec les deux jambes brisées, elle ne marchera plus jamais.
Mon Dieu.
Lui, fou de remords et peut-être aussi de reconnaissance, la reprise est épousée. Voilà. Une femme réussit toujours lorsqu'il s'agit de se faire épouser.
Voilà. Donc, ça y est, c'est rouge, je crois qu'on peut parler. Effectivement. Donc, Alexandra, vous vous êtes entendue.
Oui.
Dans cet extrait.
Oui.
Et bah c'est le début de la pièce. Hein. C'est-à-dire assez impressionnant parce que on voit donc Alexandra, votre personnage.
Oui, c'est Céleste, c'est la baronne Céleste de Grangerie qui reçoit. Dans sa maison de bord de mer, son amie Hortense, son amie d'enfance, et elle attend sa nièce qui n'était pas prévue au programme. Et la nièce va arriver avec une copine, qui est Zoé, la comédienne,
voilà.
L'amie comédienne. Donc ouais. Tout ça va faire un joyeux séjour, une joyeuse saison de villégiature, on va dire, imprévue. Tout est d'un part d'imprévu de chacune et on va retrouver évidemment donc Céleste et Hortense avec cette belle complicité qu'on peut retrouver tout le long du spectacle. Elles se connaissent par cœur, on peut imaginer qu'elles se connaissent depuis leur enfance et en fait c'est deux générations qui vont se croiser, deux générations de femmes. Céleste et Hortense sont un peu plus âgées et vont recevoir une deuxième génération d'esprits et de femmes, donc dans les rôles de Zoé et Coralie, qui vont apporter toute une fraîcheur, toute une jeunesse qu'elles ont connue toutes les deux. Elles vont être fascinées l'une que l'autre par rapport à ces deux personnages avec toute leur espièglerie, leur cocasserie, leur originalité et leur audace. Quand Coralie raconte cette scène incroyable quand elle fait monter cet homme Céleste est sur le est complètement stupéfaite et impressionnée par l'audace de sa nièce quoi qu'elle n'attendait pas. Comme elle va être impressionnée par cette audace et cette ingéniosité du caractère de Zoé. Et puis, elle va être complètement attendrie pleine d'amour, mais de l'amour d'amitié envers Hortense quand elle voit son amie d'enfance enfin heureuse ou qui part à l'aventure avec cet instituteur qu'elle rencontre dans le train.
Ne raconte pas tout.
Le personnage de Céleste, à travers ses trois autres personnages et de différentes générations, on peut imaginer qu'elle a traversé toutes ces étapes, peut-être même plus, on ne sait pas.
Elle est veuve, hein.
Elle est veuve.
Elle a été heureuse dans son ménage, elle le dit, je crois.
Elle a été très heureuse. Et puis, après, elle a vécu sa vie un peu par procuration. Mais bon, quand elle dit qu'elle s'est identifiée à cette reine d'Espagne en ayant lu Ruy Blas, elle continue encore à rêver, à fantasmer l'amour. Bah même si on sait qu'elle a vraiment eu une vie pleine de...
Mais on peut comprendre que l'amour prenne tellement de place chez ces femmes. Finalement, à quoi peuvent-elles bien penser si elles ne travaillent pas? Bon, il y en a une qui est comédienne, mais que faire de ces journées? Il faut quand même rêver, il faut quand même faut mettre un peu d'air dans ces journées. C'est une époque où les femmes ne travaillaient pas. Enfin, ces femmes-là, ces petites bourgeoises.
Oui, des bourgeoises. Donc, faut
quand même. Non, mais ça explique quand même.
Ça sortait, ça faisait des salons, ça peignait pour le plaisir aussi. D'ailleurs, le personnage d'Hortense sort, elle part en vie.
Enfin, ceci dit, les femmes qui travaillent pensent à l'amour aussi. Il ne faut pas
exagérer
quand même.
En réalité, ça ne parle pas que d'amour, ça parle aussi d'indépendance et de place de la femme, surtout cette pièce. C'est-à-dire que ce qui vraiment circule et ce qui nous fait grandir de tableau en tableau, et ce qui fait qu'à la fin du quatrième tableau, on veut se retrouver, on veut se revoir quand on sera à Paris, c'est qu'on a grandi ensemble au fil de ces deux semaines et qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, probablement. Et qu'on n'a pas juste parlé de nos histoires de cœur, qu'on a parlé aussi de notre place d'être humain par rapport aux hommes.
Notamment aussi en raison des frustrations. En raison, par exemple, alors là, c'est on doit ça à Roger Defossé de faire parler Maupassant qui dit qu'il faudrait une loi pour interdire le devoir conjugal.
On y est arrivé, en fait. Il était extrêmement précurseur puisqu'on a voté il n'y a pas longtemps la loi du consentement. Donc, effectivement, cette phrase-là, elle vient à point parce que c'est d'une modernité incroyable.
Oui, et d'ailleurs...
Mais pas que cette phrase.
Non, mais...
C'est ça qu'on se rend compte quand on s'entend, quand on écoute nos personnages, que le texte est d'abonne...
Tout à fait contemporain. Toujours actuel.
Toujours actuel. Et c'est surtout un plaisir de le dire, de dire ce texte en français, en français absolument divin, quoi.
Un style extraordinaire.
Oui, un style indémodable et qui fait du bien d'entendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend la plupart du temps quand on sort de scène. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ce beau texte.
Oui, ça fait du bien. Et puis d'entendre cette réalité quand même c'est juste au début du mois de janvier en 2026 que
la loi du devoir conjugal.
Il n'y a plus de devoir conjugal. Oui. C'était une raison de divorcer. La femme qui refuse de faire l'amour avec son mari, ou inversement d'ailleurs, il faut quand même être...
Il faut être juste.
Il faut être juste.
Voilà. Je suis le seul garçon ici.
Il est perdu.
En fait, je pense que c'est vrai que c'était... Alors, c'est important que cette loi soit passée.
Attention, le micro.
C'est important que cette loi soit passée, évidemment, mais...
28 janvier 2026, et puis ça a été... validé par le Sénat en avril 2026, moins de voix, hein. Mais enfin bon, mais c'est lourd quand même de se dire que et on en parle dans cette pièce, il y a des femmes qui c'est terrible pour elles d'être obligées d'aller dans le lit de leur mari parce qu'elles en ont marre.
Et le devoir de procréer, parce que ça va plus loin, c'est pas juste faire plaisir à l'homme. Le plaisir de la femme, on n'en parle même pas, il est complètement enfoui depuis des années, mais c'est surtout l'objectif, c'est de procréer, et d'un garçon, c'est un plus.
Ah oui, c'est sûr.
Alors par contre, c'est vrai que dans la pièce, ces dames, apparemment, on ne parle pas d'enfants, de jeunes enfants. Mmh.
Mais c'est-à-dire que moi, je vais sans doute en faire un le lendemain. La pièce. Ou alors, j'ai eu
quelle révélation.
Il y aura la suite. Je me suis dit, mais en fait, je suis enceinte, c'est pour ça. Que
elle m'a dit ça en sortant. Elle m'a dit, en fait, Marie, j'ai compris, je suis enceinte.
Et là, Marie me dit, ah bon. Je dis, non, mais pas moi. Je crois que l'homme voulait parler.
Non, mais c'est-à-dire que je pense que l'histoire les lois sont votées par les hommes, ça c'est sûr, puisque ça a été une période. Maintenant, il y a plus de femmes. Il y a quand même eu Simone Veil qui est passée. Il y a quand même eu des grands combats féminins qui sont passés. Elles votent. Elle vote depuis quand? Depuis juste après la guerre. Donc 46, ça, c'est quand même.
Et le chéquier, on en parle.
Ça donnait un pouvoir à l'homme. Maintenant, pour moi, le propos réel de la pièce, que ce qu'a voulu faire passer Roger Desfossés, c'est un, cette égalité qu'il y a entre l'homme et la femme, parce qu'on le voit, parce que nous, en fait, enfin, moi, le plus important qu'il y a dans la pièce, c'est qu'on regarde par le trou de la serrure et qu'on regarde quatre femmes qui ont quatre caractères différents et qui s'amusent. Comme nous, si nous on part, enfin je parle des garçons, hein, quand on a envie de faire la fête aussi, on va faire la fête et on est quatre, on peut être quatre garçons et discuter, voir toutes les joies et les peines qu'on peut avoir. C'est-à-dire c'est cette nostalgie qui est bien et c'est important en fait, je dirais encore plus aujourd'hui parce qu'on a besoin de discuter ensemble, parce qu'on a de plus en plus, alors on va pas s'envoyer des textos, maintenant on peut aller, il faut retourner, enfin moi je suis pour le retour au café, le retour aux discussions, le retour comme on fait là, la table est ovale, on discute ensemble, on discute d'un auteur, c'est merveilleux, et de se dire, bah tiens, voilà ce qu'on doit défendre. On doit défendre, en fait, les propos d'un écrivain, même si c'est un écrivain passé, qui n'est pas, qui est au plus important contemporain, parce que ça nous fait parler. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, ça nous permet de discuter, et de se dire, l'avenir, il doit être dans quelque chose de toujours positif. C'est l'idée, et c'est en tout cas ce qu'on sort de la pièce, c'est-à-dire tout le monde, en fait, quand on parle de la sortie, ce qui est très agréable, c'est le retour de se dire, purée, c'est incroyable, jamais j'aurais pensé que Maupassant aurait pu réécrire un truc comme ça, mais qu'à l'arrivée, mais moi j'ai envie d'en parler à tout le monde, parce que c'est aujourd'hui qu'on en parle.
Et quelque part, il y a aussi un truc génial, c'est qu'il y a des couples qui viennent voir la pièce et il est fort probable qu'après ils en discutent. Ça, je pense que la pièce, déjà il y a le prétexte Maupassant et elle permet aussi après de rouvrir le dialogue. Là, ces quatre femmes ensemble, je voulais juste aussi dire que si Céleste et Hortense ont une forme de, pas d'admiration, mais de quelque chose qui les éveille en regardant Zoé et Coralie, c'est pareil dans l'autre sens. Pour le personnage de Zoé, avoir des moments avec ces deux femmes pour lesquelles elle a beaucoup d'admiration.
Oui, il y a de l'émulation.
Il y a de l'émulation vraiment entre toutes. Et vraiment, ce qui se passe dans la pièce, c'est qu'on s'apporte toutes mutuellement des choses selon nos caractères, nos différences. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Quand on discute, et ben, ça nous permet de prendre du recul, ça nous permet de se remettre en question. Et c'est ça qui doit perdurer finalement aujourd'hui dans la société. C'est qu'il n'y a rien qui se passera mieux que si on communique, on discute. Donc c'est bien si ça passe par des discussions de femmes, par des discussions d'hommes, et qui puissent ensuite, les hommes, ça apaise. Discuter les uns comme ça apaise.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, alors, je ne sais pas si je me, peut-être que je me trompe, il y avait un côté Tchekhov.
Il y a aussi un côté Tchekhov. Ouais. Hein? Ouais, je pense que c'est lié aussi à la mise en scène qu'a voulu Gwenaëlle.
Oui. En fait, c'est aussi quelque chose où alors moi, je parle de du tout en tant que metteur en scène, je regarde toujours des mises en scène, alors des mises en scène féminines. Des fois, je parle de douce jalousie. Je me dis, ça peut être qu'une fille metteuse en scène qui a fait ce spectacle. Et c'est vrai qu'en ayant quatre filles sur le plateau, c'est merveilleux parce que du coup, on a, moi, j'ai un outil incroyable, c'est-à-dire je peux jouer avec elles et j'ai l'impression, en fait, je sors le côté féminin que j'ai aussi et de me dire, tiens, on va faire ça. Et la mise en scène, en fait, est assez dynamique pour parce que je voulais ce côté pétillant champagne que beaucoup de femmes ont. Et qu'on a du plaisir à voir. On se dit et même il y a des moments, il y a des instants où elles sont aussi en nostalgie, où elles sont.
C'est ça qui me fait penser un peu à Tchekhov.
Qui nous donne ce côté Tchekhov, dans cet esprit-là.
Oui, c'est ça que j'ai trouvé bien dans la pièce, c'est que il y a un petit peu de Fedo. Parce qu'il y a des situations qui sont cocasses.
Bien sûr.
C'est pas moi qui ai tapé sur la table, hein. Il y a des situations qui sont un peu cocasses. Et puis, il y a quand même une sorte de... Oui, de petite...
Mélancolie.
Mélancolie, ouais. Qui dans le personnage d'Alexandra, un petit peu, quand même, parce que, bon, c'est vrai, elle voit ça un petit peu à distance. Elle est veuve, elle voit que toutes ses amies pensent à l'amour, et on se dit, tiens, elle va y penser aussi.
Elle en parle, mais au passé. J'ai déjà vécu ça.
Voilà, c'est ça.
C'est vraiment le...
Ouais.
Pour moi, je pense qu'elle en parle aussi au présent. C'est-à-dire que on le sent. C'est-à-dire que l'amour, en fait, pour moi, il est large. Oui. Et comme il est large, en fait, elle voit ce peintre aussi sur la plage. Elle voit les gens, elle est amoureuse des gens. C'est-à-dire que moi, je pense qu'elle a eu, alors mais ça, c'est notre salade de sur scène,
ouais.
Mais je pense qu'elle a vécu des choses extraordinaires, peut-être avec son mari, peut-être avec tout ce qu'elle a vécu. Je pense que c'était une artiste, une grande artiste, en tout cas avant. Ouais. Et c'est pour ça que Zoé admire aussi ce côté-là. Mais en fait, on a l'impression d'avoir une maison d'artistes. Puisque chacune est artiste, il faut pas oublier que Coralie elle joue du piano comme tout le monde en fait à partir de moment, et il y a ce côté artistique au niveau musical. Zoé c'est plutôt le théâtre, et donc moi je pense qu'il y a la danse en fait dans le côté de Céleste. Certainement, il y a du musical, il y a quelque chose de cet ordre-là. Certainement, pour moi, ça me fait toujours penser à Lautrec et puis tous ces grands artistes aussi qui ont peint ces femmes-là. Et du coup, on a ce plaisir à avoir cette grande palette à l'intérieur d'un seul spectacle.
Oui. Et puis non, ça fait référence.
C'est une vraie richesse en fait d'avoir ces quatre personnages avec des identités très fortes.
Oui.
Et cette sororité qui baigne la pièce, quoi.
Et c'est le reflet d'une époque, parce que à cette époque-là, la fin du 19e, du 19e, il y avait aussi des artistes féminines, artistes femmes, peintres.
Hein. Claudel.
Berthe Morisot, et puis d'autres, peut-être moins connus, mais ça commençait. Les femmes commençaient quand même à apprendre.
Ça commençait à se savoir. Je pense qu'elles avaient déjà, mais ça commençait à se savoir, à pouvoir se montrer. Je pense qu'il y a eu un moment où, en fait, on cachait un peu ce truc-là. On disait, bon, elle a dessiné, elle a écrit 2-3 poèmes, ou un truc comme ça, c'est pas. Mais comme c'est devenu, en fait, quelque chose de plus important, je pense que c'est ce qui s'est dit après. Parce qu'en fait, on parle de Camille Claudel parce que il y avait Rodin. Mais après, on s'est dit, mais ouais, c'est elle qui avait énormément de talent aussi.
Et puis je pense aussi que ces jeunes femmes, elles ont une éducation qui font qu'elles ont dû apprendre le piano, le chant, la peinture, même si...
Oui, tous les arts.
On n'arrive pas à deviner ce que peint Hortense. Mais...
c'est peut-être de l'art abstrait. Hein, bon,
voilà. Non, donc il y avait ça aussi dans leur éducation. Je pense que tout est là aussi.
On peut imaginer les cours de solfège, les cours de peinture, les cours de chant.
Parce que c'est
évident.
Ça
fait partie de l'éducation. Dans les maisons avant, il y avait toujours des violons ou un piano.
Voilà.
C'était un classique. Il y avait c'était pas tellement exceptionnel, si exceptionnel que ça, puisque il y avait que ça à s'occuper. Le chant, la musique et la danse.
Commencent à vouloir effectivement, comme vous l'avez dit, elles ne pensaient pas qu'à l'amour non plus. Que les femmes commencent à vouloir elles sont intéressées par le savoir aussi, par la connaissance.
Oui, qu'elles veulent exister aussi à travers.
Elles veulent sortir
dans la lignée des courtisanes.
Du foyer, elles veulent sortir du fait d'être enfermées dans leur maison. Oui, elles veulent sortir de chez elles, parce que la femme, c'est le foyer. Mais moi, j'ai une grand-mère, comme beaucoup de gens. ma grand-mère. Et même une arrière-grand-mère. Et ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait, ma grand-mère ? Eh bien, elle a commencé à aller au musée de l'homme, à prendre des cours. Elle était née en 1900. Elle a pris des cours, elle est devenue psychologue. Elle avait fait des choses. Hein. Mon arrière-grand-mère, elle tenait salon.
Voilà, c'est ça, mais c'est le salon. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans les salons? On discutait tout, des arts, la politique.
Des artistes, des poètes, etc. Et des artistes dramatiques aussi. Porto Riche. C'était une... qu'est-ce qu'elle était, Porto Riche? Porto Riche, il était un peu amoureux de mon arrière-grand-mère. Non, c'est pour rigoler, mais enfin, c'est pour dire que c'est pas si loin que ça.
Mais non,
tout ça.
Mais oui.
Et moi, je vous parle de la fin du 19e siècle. Du 19e siècle. Les femmes commençaient à émerger. Quand on pense qu'il a fallu toujours attendre. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Janvier 2026 pour que on mette dehors la loi du devoir conjugal. Il faut se dire que bon Dieu que
Il a fallu se battre.
Mais ça avance. Allez, soyons positifs.
Ça avance. Alors, peut-être. Parce que j'ai pas, mes enregistrements ne sont pas fameux au niveau auditif. Est-ce que. Alors, je suis désolée, tu me dis qu'il faut des. Ah oui, tu as des. On va faire une pause musicale, voilà, avec Chopin. Voilà. Je voulais savoir s'il pouvait. Voilà. Je lui ai demandé de me mettre un peu dans l'ambiance un peu de l'époque. Et Chopin, Maupassant, Georges Sand, Alfred de Musset. Flaubert.
Et on joue en face de la rue Sainte-Beuve.
Hein. Ah oui, en plus.
C'est vrai, juste en face. Ouais.
Alors, on va écouter un peu de Chopin.
Avec plaisir. Parfait.
va quand même dire où ça se passe, hein, parce qu'on a peut-être dans la... Les petites femmes de Maupassant. Adaptation Roger Defossé. Mise en scène de Gwenaël de Gouvello. Ouais. Avec Eurydice.
Elle-être.
Marie Gracq.
Très bien. Marie Gracq.
Marie Gracq.
Carine Pinotto.
Alexandra.
Sarah Mona.
Voilà. Donc, ça se joue jusqu'au 23 août. Alors, il y a encore du temps, hein, jusqu'au 23 août, à 18h30 du mercredi au samedi et à 15h le dimanche. Voilà.
Et c'est au Lucernaire.
C'est
la salle noire ou rouge, je ne sais plus.
Noire.
Salle noire, 53 rue Notre-Dame des Champs. Alors, il y avait une Notre-Dame et il y avait des champs, dans cette rue, certainement. Dans le 6e. À Paris, c'est tout près de Montparnasse.
Jardin du Luxembourg.
Dans le petit square, il n'y a plus la statue de Dreyfus.
Ils l'ont enlevée ?
Bah, je crois qu'ils l'ont transférée à l'île de la Cité.
Ah bon ?
Oui.
Bon, d'accord. Bref. Donc, 53 rue Notre-Dame-des-Champs.
Oui.
Et c'est jusqu'au 23 août. Franchement, c'est un petit spectacle revigorant.
Très bien joué.
De la part de Maupassant, je trouve qu'il a une... C'est assez incroyable, cette capacité à saisir un peu l'esprit féminin, quand même.
Non, hein. Il faut relire Maupassant.
Il faut relire les nouvelles et les chroniques de Maupassant. Oui.
Mais là, dans cette pièce, c'est toute la vivacité de ces jeunes femmes qui ressort, quand même. Hein. Elles sont vives. On sent qu'il les aime. Il les aime, la façon dont il les met en scène dans ses nouvelles, et puis grâce au metteur en scène aussi. Mmh. C'est quand même des portraits féminins qui sont. C'est pas des portraits vaches, c'est des portraits.
Non, il a de la tendresse.
Ouais, c'est des portraits presque amoureux, hein, franchement. Hein, c'est bienfaisant. Moi, j'ai vraiment. Beaucoup adoré.
Ça permet un autre regard aussi. Et c'est vrai qu'au collège, par exemple, ils étudient encore Maupassant. Mm-hmm. Et souvent, des nouvelles comme La Parure, avec des personnages plus dramatiques, des histoires plus...
Une vie.
Plus, voilà, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est une autre vision. Donc, c'est aussi pour les scolaires, en fait, que c'est accessible.
Oui, c'est à partir de 10 ans. Tout à fait.
Ouais, ouais.
Alors, je sais que vous allez au spectacle. C'est-à-dire que vous allez jouer ce soir à 18h30. Que si vous allez monter le décor, qu'il faut que vous partiez, vous y soyez à 17h. Donc, je vous convie à jouer une live, un petit extrait des femmes, les petites femmes de Maupassant.
Alors. Oh, n'est-ce pas ? Oui, Joseph a de fort belles moustaches. Et je comprends que Zoé ait été séduite. Un homme sans moustache est incomplet. Voyez celle de mon défunt époux. Voyez comme elles sont indispensables à une physionomie virile.
Il faut dire que les baisers d'un homme sans moustache n'ont aucun goût.
Aucun, mais ça n'a plus de charme, enfin ce moelleux. Et ce poivre, oui, ce poivre du vrai baiser. La moustache en est le piment.
Elle chatouille d'une façon délicieuse. On la sent avant les lèvres et elle vous fait passer dans tout le corps, jusqu'au bout des pieds, un frisson charmant.
Et sur le cou, n'as-tu jamais senti une moustache sur ton cou ?
Raoul est un berbe ?
Oh ! Je sais pas ce que tu perds, ma pauvre Cora. Sur le cou, ça te grise, ça te descend dans le dos et ça te court au bout des doigts. C'est agaçant, mais c'est rudement bon. Et puis, ah non, là, j'ose pas.
Parler ?
Mais oui, parler !
Nous sommes entre nous.
Eh bien, un mari qui vous aime, mais là, tout à fait, qui vous aime vraiment. Ce mari-là s'est trouvé un tas de petits coins où cacher des baisers.
Des petits coins dont on s'avise-regard toute seule. Ces baisers-là vous donnent une vibration exquise qui vous fait pousser un petit « Ah !» comme si on avait grand froid. On voudrait partir, mais on reste.
Bravo, mesdames.
Bravo.
Ah oui. C'est sympa à faire comme exercice. J'adore. Ouais. Ça nous donne vraiment envie au début.
Ah oui, on va le faire, absolument.
Entendre, c'est génial. Entendre jouir quatre femmes.
Venez, venez, venez.
Moi, je ne comprenais rien. Hein.
Non, merci infiniment.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Non, mais c'est...
Elle est passée chez Joseph.
Oui. Coquina.
Ah oui, il
y a un petit non, non, c'est pas vrai.
C'est faux.
C'est jardinier. C'est jardinier.
Bon, je vais peut-être vous libérer parce qu'il est 16h25.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci Radio Libertaire.
C'est nous. Et vous remercions. Et je vous souhaite tout le succès que vous méritez.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Et à bientôt.
À bientôt.
Avec grand plaisir.
Merci.
Merci
beaucoup. Ouf, il fait chaud, hein.
Bravo.
On est toujours
très belle émission, Evelyne.
Merci beaucoup.
Yeah, merci. Ah ouais, alors donc on garde en tête que éventuellement
ça serait sympa.
d'une heure vingt.
De chair martyrisée. De leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison.
beaucoup. Merci.
Je ne sais pas pourquoi la pluie quitte le haut ses oripeaux. Que sont les lourds nuages gris pour se coucher sur nos coteaux. Je ne sais pas pourquoi le vent s'amuse dans les matins clairs à colporter les rires d'enfants carillon frêle de l'hiver. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi la route qui me pousse vers la cité à l'odeur froide des déroutes de peuplier en peuplier. Je ne sais pas pourquoi le voile du brouillard glacé qui m'escorte me fait penser aux cathédrales où l'on prie pour les amours mortes. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais que je t'aime encore. Je ne sais pas pourquoi ces rues s'ouvrent devant moi une à une, vierges et froides, froides et nues, rien que mes pas et pas de lune. Je ne sais pas pourquoi la nuit, jouant de moi comme guitare, m'a forcé à venir ici pour pleurer devant cette gare. Je ne sais rien de tout cela, mais je sais. Je t'aime encore. Je ne sais pas à quelle heure part ce triste train pour Amsterdam qu'un couple doit prendre ce soir, couple dont ne suit point la forme. Et je ne sais pas pour quel port part d'Amsterdam ce grand navire qui brise mon cœur et mon corps, notre amour. Et mon avenir.
Camille de la Chapelle et des quais de Javel.
De tout cela.
Homme
je sais
des.
Que je t'aime encore. Mais je sais que je t'aime encore.
Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers. Brûleur des grandes ordures de la ville de Paris. Ébouillanteur des bêtes tombées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée. Polac du Marais. Du temple, des rosiers, cordonnier de Cordoue, soulier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclave noir de Fréjus qui évoquait chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez pas dans la capitale pour que pour fêter au pas qu'à danser La prise de la Bastille. Ah. Lundi prochain, le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés, naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or, faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage contre terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières, on vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de la vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Ne rêvez pas. Pointez, grattez, vaquez, marnez, bossez, trimez. Ne rêvez pas. L'électronique rêvera pour vous. Ne lisez pas. L'électrolyseur lira pour vous. Ne faites pas l'amour, l'électrocoïdal le fera pour vous. Pointez, grattez, vaquez, marnez, bossez, trimez. Ne vous reposez pas. Le travail repose sur vous. Pourchassé par des chiens syriens, un casoar australien se réfugie dans un bidonville algérien. Les bidonvilliens lapident les chiens syriens. L'archevêque. Beaux enfants, vous ne perdez pas une plume de vos shakos. Dieu a copulé avec cette chienne de vie. Croyez bien qu'il reconnaîtra ses chiens. Celui qui bénit l'émeute, maudit l'émeute. Il agite sa crosse. Les CRS surgissent. Le bidonville est ratonné. L'oiseau collé au mur est fusillé. Les chiens syriens se précipitent. C'est de la fumée. Jacques Prévert. Merci.
Et ben voilà.
D'ailleurs, j'ai encore, messieurs les auditeurs et mesdames les auditrices, j'ai encore un autre petit texte de monsieur Jean-Marie. Il dit un sketch de Jean Tardieu qui s'appelle Monsieur. Mais. Ah, alors, entre-temps, je vais passer la parole Anne de Lalleux qui va nous parler de certains spectacles.
Bah, c'est-à-dire que je vais surtout vous relancer pour notre amie Marie-Sylvia Manuel que nous avons eu le plaisir de voir samedi dernier. Alors, ça s'appelle Entre copains d'abord au studio Héberto. Et c'est Georges Brassens et Raymond Devos. Et ça se joue encore, alors que je ne dise pas de sottises comme d'hab, ça se joue encore.
Alors
dimanche, c'est-à-dire demain, et samedi prochain. Et pas le dimanche prochain, parce que c'est pareil que c'est l'arrivée du Tour de France. Alors tu parles. Ça sera donc au studio Héberto. Le samedi, c'est à. Ah bah naturellement, je l'ai là sous les yeux. Alors voilà, le samedi c'est à 16h, le dimanche à 14h30. Donc demain, vous pouvez courir, pas trop, mais enfin, au studio Héberto, voir Entre copains d'abord, le 19 juillet, c'est demain, à 14h30. Et puis bah, le 25 juillet, ou ce soir, oui, ah si, ce soir, non c'est trop tard, le 25 juillet à 16h. Donc c'est un très beau récital poétique, drôle, dynamique. On vous en a dit beaucoup de bien, donc je vous conseille ce spectacle. Et il y a encore notre amie Yann Baquet, que nous avons reçue l'autre fois aussi, qui chante au paradis du Lucernaire, encore une fois le Lucernaire. Elle chante jusqu'au 23 août à 19h, du mercredi au samedi, et 15h30 le dimanche. Et donc ça sera un plaisir de l'écouter aussi. Dans les partitions de Juliette, de François Morel, Chopin, Moustaki, enfin elle mélange tout, elle sait tout faire, cette sacrée bonne femme. Donc je vous conseille aussi d'aller retrouver Anne Baquet au paradis. Avec Madame Evelyne, demain nous allons voir une dame de petite vertu, mais très très talentueuse pour Toulouse-Lautrec. C'était La Goulue, donc nous y allons demain et on vous en parlera samedi prochain. Et La Goulue, ça c'est aussi au Lucernaire et au Paradis.
Alors moi je reviens d'Avignon, voilà. C'était juste une ou deux journées. Alors qu'est-ce que j'ai vu de beau? J'ai vu un spectacle qui m'a beaucoup plu. C'est Marceline Loridan Evans. Marceline Loridan, c'est une dame qui était l'amie de Simone Veil. Et qui a été déportée à l'âge de 15 ans. Et elle a écrit un livre avec une journaliste, Judith Pérignon, pour raconter sa vie. Après, elle est une survivante de la Shoah. Et vraiment, c'est vraiment très, 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 très émouvant. C'est un très beau texte. Ça s'appelle L'amour après. Et ça se donne au théâtre 3S 4 rue Buffon à Avignon à 10h10, voilà, jusqu'au 25 juillet. Franchement, c'était vraiment un très très beau texte. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai pas le temps de parler de tous.
Est-ce qu'il y en a qui viendront à Paris, tu sais pas?
Je sais pas encore. Non, j'en sais rien du tout. D'accord. Mais je défends ce spectacle L'amour après de Marceline Loridan. Alors, cette dame, je l'ai vue pour de vrai, parfois, je l'ai vue pour de vrai parce qu'elle présentait un film qu'elle avait réalisé avec son mari, Jory Evans, et que s'appelait, c'était sur l'histoire du vent, elle avait filmé ça en Chine, et j'avais vu une projection de ce film, elle présentait ce film, et j'avais trouvé cette femme pleine de soleil, elle avait déjà 80 ans, même plus. Vraiment solaire, cette femme. J'avais été émerveillée en la voyant présenter ce film. C'était au musée Guimet, hein, il y a quelques années. Et puis, là, je découvre ce texte qui m'a été présenté par le coproducteur et l'attaché de presse, François Villa. Et L'amour après, c'est vraiment un très, très joli texte et qui est superbement bien... interprété par, alors attendez, L'amour après, malheureusement j'ai pas toutes les informations, je vous le dirai après. On va écouter un autre sketch dit par monsieur Jean-Marie Blanche, monsieur de Jean Tardieu.
peut pardonner, pour nous gagne avancer, mais il peut pas oublier. Récit de nos arbres anciens, eux qui m'étendent sous les étoiles. Regarde.
C'est par Monsieur interroge Monsieur. C'est tiré du livre Monsieur, Monsieur de Jean Tardieu. Monsieur interroge Monsieur. Monsieur, pardonnez-moi de vous importuner. Quel bizarre chapeau vous avez sur la tête. Ah, Monsieur, vous vous trompez, car je n'ai plus de tête. Comment voulez-vous donc que je porte un chapeau ? Et quel est cet habit dont vous êtes vêtu ? Monsieur, je le regrette, mais je n'ai plus de corps, et n'ayant plus de corps, je ne mets plus d'habit. Pourtant, lorsque je parle, monsieur, vous répondez, et cela m'encourage à vous interroger. Monsieur, quels sont ces gens que je vois rassemblés et qui semblent attendre autant tant que d'à s'avancer. Monsieur, ce sont des arbres dans une immense plaine. Ils ne peuvent bouger car ils sont attachés. Monsieur, 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 au-dessus de nos têtes, quels sont ces yeux nombreux qui dans la nuit regardent ? Monsieur, ce sont des astres. Ils tournent sur eux-mêmes et ne regardent rien. Monsieur, quels sont ces cris ? Quelque part, on dirait que l'on rit, on dirait que l'on pleure, on dirait que l'on souffre. Monsieur, ce sont les dents de l'océan qui mordent les rochers, sans avoir soif ni faim et sans férocité. Monsieur, quels sont ces actes ? Ces mouvements de feu, ces déplacements d'air, ces déplacements d'astres, roulements de tambours, roulements de tonnerre, on dirait des armées qui partent pour la guerre sans avoir d'ennemis. Monsieur, c'est la matière qui s'enfante elle-même et se fait des enfants pour se faire la guerre. Monsieur, soudain ceci m'étonne. Pourtant, moi je vous parle et vous m'entendez, puisque vous me répondez. Monsieur, ce sont les choses qui ne voient ni entendent, mais qui voudraient entendre et qui voudraient parler. Monsieur, à travers tout, ce sont ces images, tantôt en liberté et tantôt enfermées, cette énorme pensée où les figures passent, où brillent des couleurs. Monsieur, c'était l'espace, et l'espace se meurt. Jean Tardieu, merci.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Hop, c'est fini ?
Ça y est, c'est fini.
D'accord.
Anne,
oui.
Tu peux parler si tu veux.
Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, chers amis, le samedi prochain, nous espérons avoir.
C'est fini à 17h.
Nous avons peut-être le plaisir de recevoir. Agatha Christie, enfin, si on peut dire Agatha Christie. Mais on va sans doute en parler. Ou alors, avec un peu de chance, la goulure, enfin, on verra. Ça va être la surprise la semaine prochaine. Voilà, chers amis.
Alors, je voulais parler donc de L'amour après.
Vas-y.
Donc, une pièce qui se joue en ce moment à Avignon. Alors, donc, l'interprète, qui est vraiment formidable, c'est Anne-Gisèle Glas. Voilà. Et donc, ça se passe 4 rue Buffon à Avignon jusqu'au 25 juillet. Et, alors, attendez, faut que à 10h10, c'est le matin. Est-ce qu'il y a un jour de relâche ? Faut que je regarde. S'il y a un jour de relâche.
C'est au 3S, en tout cas. C'est les 3S, ça, tu as dit.
Oui, mais c'est 4 rue Buffon. Bon, oui, on oui. Pas là. Oui. Voilà. Et donc, par contre, je ne sais pas s'il y a un jour de relâche. C'est pas marqué. Représentation du cœur. C'est pénible, on ne voit pas bien les... Alors, relâche le 22 juillet. Voilà. Et c'est jusqu'au 25 juillet. Ça dure 1h20. Je vous recommande tout à fait ce spectacle. Il y en a un autre que je vous recommande. Nous, les petits-enfants de Tito. C'est un acteur qui est vraiment impressionnant. Et ça se passe à l'espace Mistral. 11 boulevard Raspail. Ça se passe dans un lycée. Enfin, la représentation est dans un lycée. Et c'est à 11h15. Donc, c'est jusqu'au 25 juillet aussi. Donc, nous, les petits-enfants de Tito, ben, c'est la génération des enfants qui sont nés pendant et après la gouvernance de Tito. Et puis, il y a eu le démantèlement de la Yougoslavie. Et lui, c'est un Albanais. Il est arrivé en France. Il a fui aussi. Il y a eu la guerre entre les Serbes, la Croatie, etc. Et il raconte le... Il raconte un peu le destin de ces pauvres, comment on appelle ça, de ces immigrés, d'après ce qui font partie de ces étrangers de Prévert. Et c'est extrêmement bien joué par le comédien. Voilà. Nous, les petits-enfants de Tito, espace Mistral, au 11 boulevard Raspail, à 11h15. Il y a un autre spectacle que je recommande. C'est au Théâtre de la Porte Saint-Michel, 23 rue Saint-Michel, à Avignon, bien sûr. Au plus près de ses voix, c'est mise en scène, c'est et interprété par Jean-Paul Sermardiras. C'est à 18h30 et ça parle de la prise de conscience d'un professeur d'histoire à propos du combat des femmes pour mettre fin au port du voile en Iran. Voilà, et c'est joué de façon très sobre. Il y a une femme qui, je pense qu'elle chante en iranien, et qui a une très très belle voix. C'est un très très un spectacle très sensible et je recommande également. Voilà. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses en ce moment à Avignon. Oui, il y a aussi La nuit juste avant la forêt de Coltès qui jouait au Théâtre des Corsins, 76 place des Corsins, à 19h50, mise en scène par Jean Pétrément. Le comédien aussi est formidable. Alors, attendez, j'ai pas son nom là, sur le bout des lèvres. Programme, voilà. La nuit juste avant la forêt. Alors, voilà, comment réserver. Programme, la nuit juste avant la forêt. Je vais vous donner le nom du comédien parce qu'il mérite quand même d'être cité. Voilà, la nuit juste. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai là?
Puis il y a l'ami William Mesguich qui fait ses trois spectacles à Avignon. Alors, je ne les ai plus tellement en tête. Il y a Être ou ne pas être. Il y a le Algernon aussi. Et puis le Gauguin Van Gogh que j'avais beaucoup aimé l'année dernière aussi.
Voilà, la nuit juste avant la forêt. Mais. Compagnie Bacchus, ouais. Voilà, et mise en scène Jean Pétrément avec Léonard Stefanica. C'est un très très grand acteur, voilà. Bon, il y a d'autres spectacles, mais il y a quand même des bons textes. Et bien, je vous recommande L'amour après de Marceline Loridon au théâtre 3S, 4 rue Buffon, voilà. Bah écoutez, on est un peu d'avance. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, chère Anne,
ma chère Evelyne. À part les trois rappels des pièces de William, il y a aussi le comédien qui était avec William sur Pessoa, qui joue aussi à Avignon en ce moment. mais je ne sais plus le nom du le titre de la pièce. Bravo. Il y a le Spoons.
Bah, c'est l'intranquillité. Voilà, c'est Jean-Paul Germain Diras qui joue, voilà. Qui aussi il y a le spectacle l'intranquillité également.
Voilà, ouais. Très bien.
Voilà.
Et avec William, ils vont parler football sans doute ce soir. Et puis, il y aura aussi il y a le Spoons que je vous signale aussi, qui était très bien. Les Barbères, là, qui sont très drôles aussi. Mm-hmm. Et puis, il y aura bah, naturellement Isabelle Andréani dans Madeleine Béjart.
D'accord, voilà. Merci.
Voilà, et bien écoutez, on vous souhaite un bon week-end à tout le monde. Des gros bisous. Et Madame Evelyne, qu'est-ce que tu as à dire de beau ?
Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Nous aurons donc d'autres invités.
Voilà.
Soit la Goulue.
Soit Agatha.
C'est pas à moi, ça. Pardon. Pas grave. Je vais le prendre, hein, non.
Soit la Goulue, soit Agatha.
Voilà. D'accord. Voilà. Il n'y a plus de musique. Un peu de Chopin.
C'est pour Evelyne.
Oui, d'accord.
C'est pour Evelyne.
Ah bon, c'est pour moi?
Oui.
Bon, d'accord. Tu as plus de Chopin? Ah non, elle est partie.
Hein?
Tu as plus de Chopin?
Si, tu veux.
Ben, il reste encore 3 minutes.
Oui. Voilà. Voilà. Allez, Frédéric, Chopin. Pardon.
Et je lui ai quand même demandé si je veux que je lui rapporte quelque chose, parce que le pauvre... Attends.
Oui.
Est-ce que je peux te rapporter une boisson, quand même? Une boisson fraîche. Ah oui, quand même. Tu fais du rat, ben, il vient comme ça. Je vais lui rapporter une boisson fraîche.
Mmh.
J'en ai pas pour longtemps.
Thank you. maman qui me compte sérénade et me protège du vent. Depuis que les garces du pays m'ont mise en quarantaine, elle tire seule l'eau du puits, trouvant lourde la chaîne. Vilaines au bois dormant, au bout de leurs bras, point de galant. J'en ai un qui me réveille et me sert le déjeuner, un qui soigneusement veille à ce que je pose en premier le pied droit, surtout pas l'autre, car il serait obligé de supporter, bons apôtres, mes mauvaises volontés. Depuis que les garces du pays m'ont mise en quarantaine, elles peuvent bien avoir des soucis, se changer en fontaine. Pas un ne les entend, autant se confier au vent. Le dimanche à la grand-messe, il me porte mon missel. À ma place, il se confesse, paie la quête et les chandelles. Je viens fleurant l'eau bénite, mon repas est tout servi. La journée s'écoule vite et puis on me met au lit. Depuis que les garces du pays m'ont mise en quarantaine, elles ont froid au fond de leur lit et leur rêve se traîne. Les gars sont bien contents, mon lit est chaud, mon lit est grand. Il n'est pas jusqu'à mes robes qu'ils ne taillent avec goût. Ils iraient courir le globe pour poser à mes genoux les trésors des Amériques, les produits miraculeux. Moi je règne séraphique sur mes 40 amoureux. Faut les voir, les garces du pays, à longueur de semaine, guigner, lorgner avec envie ma jolie quarantaine. Elles ont perdu leur temps, moi je n'en ai pas fait autant. Et mon cœur en est bien content.
Bulle Noire, Radio Libertaire 89.4. Eh bien, les amis, vous n'avez pas eu droit à ce fabuleux générique, mais vous avez droit quand même à deux invités exceptionnels qui ont bravé la chaleur de cet été un peu lourd. Vous supportez, les amis, Louise Janet et Patrick Barre. Louise,
Oui, ben moi, là, je viens de Marseille, donc ça me paraît
Marseille,
plutôt...
Il fait chaud aussi, non ?
Oui, justement. Paris, en comparaison, bon. Ça me paraît fait.
Eh bien, Marseille, Saigon, Marseille, justement, c'est le titre du dernier polar de Patrick Barre. Tu vas souvent à Marseille. Tu y es allé beaucoup pour des recherches pour ce bouquin ?
J'y suis allé un peu, mais surtout à Saigon, en fait.
Bon,
voilà.
Donc, on en parlera dans quelques minutes, en fait, en deuxième partie d'émission. Mais tu peux intervenir tout le temps que je vais poser des questions à Louise Janet. C'est ta première bande dessinée, Louise. Donne-moi ton cœur. C'est... aux éditions L'Employé du Mois. Tu vas nous raconter un petit peu comment t'en es arrivé là. Né en 1999.
Ouais, c'est ça.
En banlieue parisienne, à Paris.
Oui, à Sartrouville.
À Sartrouville, ouais, d'accord, c'est en banlieue parisienne. Diplômé des Beaux-Arts de Paris, une formation préparatoire à Glacière.
Ouais.
C'est bon jusque-là. Diplômé des Beaux-Arts en 2023. Entre-temps, comment la carrière, cette carrière de peintre, dessinatrice, de bande dessinée, autrice, tu veux pas qu'on parle de professorat, mais comment c'est arrivé justement à l'aîné?